Et puis la lecture. Les gens vont redécouvrir ça.
Je crois qu'il existe une droite et je crois qu'il existe une gauche, même dans la culture, même dans la littérature. Et ce que j'ai voulu, c'est en fait le sens véritable de mon livre, c'est persuader, disons, les écrivains et les intellectuels et les chercheurs, disons, en gros de gauche, qu'ils devaient assumer la notion de plaisir dans la théorie du texte. Parce qu'en général,
c'est pour nous qu'ils ont créé la LPE. Bon appétit les amis. Ici Montaigne was a thug. Émission de la violence littéraire. Avec au menu ce midi un gros bout de viande bien saignant. Et là tout de suite j'avais envoyé la sauce pour qu'on se mette direct dans l'ambiance. Donc c'est y part.
Retour en force de l'ordre moral. Au moral, mais c'est le bordel quand on pas dans leur panel.
C'est formel,
ils restent formés pour ça, nique le César. C'est pour ça j'ai gardé ma tenue de combat, que je lâcherai pas mon combat. Fais gaffe à ton dos, protège des abdos. Si tu partages de leur vie, c'est qu'ils font pas de cadeau. On nous censure parce que notre culture est trop basanée. Qu'on présente pas assez la France du passé. C'est carré, on veut nous stopper, ça allait. Tant qu'on rappait dans les MJC, mais aujourd'hui le phénomène a grandi. Je remercie les jeunes qui rassent sans merci. Et puis nique ça, merci. On dans leur radio, on fera le tour. C'est pas grave, le plus dur c'était de sortir de la cave. Et les gens le savent. Hey, on est encore là, prêt à foutre le souk et tout le monde est corda. On est encore là, prêt à foutre le souk et tout le monde est corda. Mais que c'est ça. On est encore là, prêt à foutre le souk et tout le monde est corda. Mais que c'est ça.
Il fut un temps, on nous aurait
pendus
comme des vendus, des bandits à la lampe pendue. C'est les honneurs qu'on nous réserve pour la suite. Parce que quand je clique la vérité, putain, ça se complique. Faut qu'on s'agit dans leurs yeux, la terreur, ce qui fait peur, c'est mon cœur. Et tout si dur que le pays qui m'a vu n'est pas l'erreur. Mais c'est le pays où l'esprit critique est en crise, écrasé par la crise des hypocrites qu'on a même mis. Mais en sur l'info, plus la fatigue, en façon, faut que ça cesse. On pousse les masses à la confrontation, putain, c'est pas bon.
Si tu pèses pas, tant pis. On vit avec ça et puis de toute façon on s'est jamais trop fait d'illusions. La liberté d'expression, laissez-moi gaulerie. Ils subissent tous des pressions, non c'est pas des conneries. La grande bouffonnerie continue mais je serai là. C'est pour ça qu'à chaque fois je ferai la différence, referai là. Tu sais je déferai la chronique. Pas par plaisir putain mais simplement parce que je chronique. La vie est sale et met en panique.
Donc voilà, un petit NTM, numéro 9 sur l'album du Best of the NTM. On est encore là. Petite chanson qu'ils ont écrite après une interdiction de faire leur... après une amende qu'ils ont reçue à la suite d'un concert où ils ont un peu trop crié trop fort, nique la police, etc., etc. Ils se sont fait censurer, ils ont pris des amendes. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Une petite chanson où ils gueulent, nique le CSA. Donc là, déjà, ça pose quelques petites questions. Ils sont là, ouais, ils font un peu leur victime. Hein. Oui, il n'y a pas de liberté d'expression, etc., etc. Mais pourtant, ils sont quand même là à gueuler, nique le CSA. Et ça veut dire que le CSA ne les a pas censurés quand ils ont gueulé, nique le CSA. Donc, ça veut dire pas mal de choses. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut peut-être dire que le CSA n'a pas peur d'un groupe qui gueule, nique le CSA. Pourquoi? Parce que ben, le CSA, il est encore là. T'as beau gueuler, nique le CSA, il n'y a pas de souci, on est encore là. Et on fout le dawa, le CSA. Et donc, ça pose un petit problème, ça, parce que c'est un peu une posture du groupe NTM. Que d'être là à dire « oui, nous on est des rebelles, regardez, on dénonce, etc., on est des fous ». Mais en fait, on dénonce rien du tout, on est dans le système jusqu'à la moelle, on est là, on fait nos petits trucs, mais ça se vend par milliers, et même, en fait, c'est peut-être nos producteurs qui nous disent de gueuler nique le CSA, ça se vendra mieux. Et donc, en faisant semblant d'être anti-système, on est au cœur du système. Donc ça, bon, on s'en fout, mais ce qui est intéressant, c'est le fossé. Que NTM tente de réduire entre la parole et l'acte. Ils sont là, nous on dit nique le CSA, c'est une action de fou, on prône la liberté d'expression, mais est-ce que vraiment la parole, comme ça, la parole révolutionnaire, la parole de rebelle, est-ce que c'est une action? Là, dans le cas de NTM, on pourrait dire que non, tu cries nique le CSA, ça te sert juste à vendre des albums, même si j'adore NTM, même si ce son il tue. Voilà, donc il y a peut-être un petit problème à ce niveau-là. Et donc, on peut se dire, au contraire, est-ce que la parole n'est pas là pour annihiler l'action, pour annuler l'action? On va faire plus simple, c'est plus stylé. Donc, est-ce que quand je parle, en fait, je ne suis pas en train d'oublier d'agir? Ça, c'est quand même une question que je trouve intéressante. Puisque aujourd'hui... Par exemple, on a des milliers et des milliards de livres qui analysent le système économique capitaliste, qui le critiquent, qui proposent d'autres choses. Donc on a des milliers de paroles, le langage est là, la réflexion est là. Pourtant, le système capitaliste est toujours là. Donc on va se demander aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'une parole révolutionnaire? Est-ce que c'est vraiment une action? À quoi ça mène? Est-ce que ça sert? Et au contraire, est-ce que, en devenant un objet de débat, c'est ce qui est très bien d'ailleurs, et de critique, le système capitalisme ne s'implante pas encore plus profondément dans notre société? Donc voilà, c'est ces petites questions-là qu'on va se poser. Mais vous me direz, dans tout ça, il est où le bouquin? Il est où? Ben alors, le bouquin, aujourd'hui, déjà, va y en avoir deux. C'est Jules Vallès, l'enfant et le bachelier. Alors Jules Vallès, qui c'est? C'est un espèce de fou là, avec une barbe qui veut taper tout le monde, mais qui est trop stylé. Dans les années 1830, 1850, 1870, parce que bon, Jules Vallès est né en 1832, donc c'est un écrivain du 19e siècle, fait une trilogie. Après la Commune, il commence l'écriture de sa trilogie en 1979, donc la Commune était en 1871, et on verra pourquoi la Commune c'est très important dans son œuvre, mais ça on en reparlera, on a le temps, peace. Et donc il fait une petite trilogie, l'enfant, le bachelier et l'insurgé. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à l'enfant et au bachelier, tout en essayant de réfléchir au problème de la parole et de l'action, voilà. Et la semaine prochaine, on parlera de l'insurgé. Donc pour l'instant, je vais vous lire un petit extrait de l'enfant. Donc l'enfant, évidemment, ça porte bien son nom, c'est la jeunesse de Jules Vallès. Parce que oui, cette trilogie est autobiographique à moitié. Donc Jules Vallès se crée un personnage qui est un peu censé l'incarner et qui s'appelle Jacques Vintras. Donc là, je vais vous lire un extrait qui est super drôle. Hein. Vous allez vous poiler un truc de fou. Bon, Inch'Allah. Et cet extrait, ça parle de ses cours de philosophie, parce que, oui, ils avaient des cours de philosophie à 12 ans à l'époque, faut croire. Donc je vous le lis. Le professeur de philosophie, monsieur Belliben, petit, fluet, une tête comme le poing, trois cheveux et un filet de vinaigre dans la voix. Il aimait à prouver l'existence de Dieu. Mais si quelqu'un glissait un argument, même dans son sens, il indiquait qu'on le dérangeait. Il lui fallait toute la table, comme pour une réussite. Il prouvait l'existence de Dieu avec des petits morceaux de bois, des haricots. Nous plaçons ici un haricot. Bon, là, une allumette. Madame Vintras, une allumette? Et maintenant que j'ai rangé, ici les vices de l'homme, là les vertus, j'arrive avec les facultés de l'âme. Ceux qui n'étaient pas au courant regardaient du côté de la porte s'il entrait quelqu'un ou du côté de sa poche pour voir s'il allait en sortir quelque chose. Les facultés de l'âme. C'était de la hotte, du chenu. Ma mère était flattée. Les voici. On se tournait encore, malgré soi, pour saluer ces dames. Mais Belliben vous reprenait par le bouton du paletot et tapait avec impatience sur la table. Il lui fallait de l'attention. Que diable! Voulait-on qu'il prouvât l'existence de Dieu, oui ou non? Moi, ça m'est égal, et vous? Disait mon oncle Joseph à son voisin, qui faisait chut et allongeait le cou pour mieux voir. Mon oncle remettait nonchalamment ses mains dans ses poches et regardait voler les mouches. Mais le professeur de bon Dieu tenait à avoir mon oncle pour lui et le ramenait à son sujet, l'agrippant par son amour-propre et s'accrochant à son métier. Chadenas, vous qui êtes menuisier, vous savez qu'avec le compas, il fallait aller jusqu'au bout. À la fin, le petit homme écartait sa chaise, tendait une main, montrait un coin de table et disait « Dieu est là !» On regardait encore. Tout le monde se pressait pour voir. Tous les haricots étaient dans un coin avec les allumettes, les bouts de bouchons et quelques autres saletés qui avaient servi à la démonstration de l'être suprême. Il paraît que les vertus, les vices, les facultés de l'âme venaient toutes fatalement aboutir à ce tas-là. Tous les haricots y sont. Donc Dieu existe. CQFD. Donc voilà, un premier passage de l'enfant. Où déjà, Vallès adopte une plume très critique à l'égard de ce professeur de philosophie, dont il décrédibilise totalement la parole. Donc voilà, le prof de philo, c'est un gros bouffon qui essaie de prouver l'existence de Dieu, donc un truc improuvable, hein, enfin moi je pense. Je sais pas ce que vous en pensez. Et ce prof qui représente l'autorité, qui représente la culture, qui représente oui, une certaine forme de classe en fait, puisque ils sont tous là, la mère de Vintras, l'oncle, bon l'oncle il se fait grave chier parce que lui c'est un menuisier, il s'en fout de l'existence de Dieu. Et d'ailleurs ça, Vintras le met, Vallès le met beaucoup en avant, hein, la confrontation de celui qui pense à celui qui agit, du menuisier au prof de philo. Mais bon, ce prof de philo, il n'est pas seulement le problème. Son problème, c'est pas seulement qu'il pense, c'est qu'il pense mal. Il fait n'importe quoi, en fait. Il est là, il fait de sa parole, en fait, de sa parole philosophique, un spectacle. Et c'est là que la parole philosophique perd toute sa pertinence et qu'elle est fatalement raillée par Vallès. Et ça rejoint un peu notre question de base, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la parole est là en fait pour se mettre en scène, pour faire le beau, faire le kéké là devant les mamans, là, il arrive, il fait oui, je vais vous prouver l'existence de Dieu, il prend ses petits haricots, donc il n'y a rien de plus ridicule. En plus on comprend mal comment des haricots pourraient prouver l'existence de Dieu, même avec un raisonnement philosophique très poussé. Donc il est totalement décrédibilisé, ce prof de philo, parce que sa parole est devenue spectacle, parce que sa parole n'est plus une action. Et moi je sais pas, mais ça me fait vachement penser à plein d'émissions de philo qu'on trouve aujourd'hui sur France Cucu ou sur d'autres trucs. Et ces émissions de philo où on a un petit mec là, beau gosse, là sur le côté, qui arrive et qui nous fait oui, alors il sort ses phrases et il s'extasie alors que personne ne comprend, et même lui il comprend, même lui on se demande s'il comprend. Et donc on est là, mec, ta parole est devenue spectacle, ta parole elle sert à rien, ta parole elle sert à Toto kiffer, et c'est tout. Et voilà, et c'est là qu'on en est, on en arrive à une rupture totale entre la parole et l'acte. Alors, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais moi ça me fait un peu aussi penser au discours politique d'aujourd'hui. Alors là, je vais vous raconter un peu ma life, mais bon, pourquoi pas. Hein. Mais je sais pas, moi une fois je suis allé dans un meeting politique, bon, comme ça, hein, au pif, je dirais même pas où, enfin de quel bord, on s'en fout. Et je vois le mec qui fait son meeting. Bon, c'était un piètre orateur, mais bon, je sais pas, il émouvait quelques personnes. Et devant moi, je voyais des vieux, genre, je sais pas, 50, 60 ans, qui pleuraient. Alors que le mec était là, il disait les trucs les plus banals du monde que tout politique peut dire, du genre, oui, je vais redresser la France, ça va aller mieux, l'emploi, fini le chômage avec moi, je vais inverser la courbe, big up. Et les mecs devant moi pleuraient. Et j'étais là. Mais alors, soit il y a rupture générationnelle, on ne se comprend plus, les vieux et moi, mais comment vous pouvez donner autant de crédit à la parole politique ? Qui est peut-être la pire des paroles au niveau de l'inaction. Enfin, c'est là où on a une antithèse totale entre la parole et l'action. Mais ils étaient là et ils pleuraient. Et c'était bizarre, mais bon, c'était comme ça. Donc voilà, pour l'instant, la parole, on ne lui fait pas trop confiance. Mais peut-être que ça va revenir, hein, on va voir. Mais en tout cas, s'il y a un truc auquel on peut faire confiance, c'est le rap, parce que ça tue.
Ah, le rap, c'est toute une histoire. Le rap, c'est mon passé, mon présent. Inch'Allah, mon avenir, c'est ma prison. Et seule la mort peut m'en faire sortir, inséparable de moi. Comme la lune de la nuit où le regard de l'œil du cap. Le rap c'est ma vie, c'est mon métier, mon chantier, ma partie de poker, mon moyen d'oublier le monde entier, mon moyen d'avoir le sourire aux lèvres comme Marvin, mon moyen d'écrire mon histoire et celle de ma vie, la pompe volante de ma vie. Le rap c'est comme la rue, trop sérieux, ça c'est loin, si tu déconnes, de bagne entre respect si t'es droit. C'est comme dans la rue, tout le monde veut la place de l'offre, le blé de l'offre, baiser le monde et se payer la femme de l'offre. C'est des petits, des grands, des petites, des grandes. Le rap c'est un refuge pour ceux que la vie est tremble. C'est des kilomètres de nord. Une passion, du bis, des euros. Le rap c'est l'existence de nous hommes.
Personne ne représente, alors on fait nous-mêmes ce qu'on entend jamais. Par amour du game, par appât du gain, pour l'honneur des tiens.
Entre la marginale musique.
Personne ne représente, alors on le fait nous-mêmes pour ce qu'on entend jamais.
Entre la marginale musique.
Si tu veux qu'on se lève, qu'on aille sur la piste, tu sais c'est une faux pas.
Entre la marginale.
Mets-moi des bâtons dans les roues, je continuerai sur les jantes. Vise ma tête et mon rap rentrera peut-être dans la légende. J'ai plus rien à perdre. Le temps c'est du rap, le rap si tu plais, le blé si tu l'es pour les biberons de mon bébé. Je peux plus laisser quiconque monter le pain de la bouche. Si je me laisse mettre sur la touche, qui lui paiera ses couches. Le rap c'est ma drogue, mon sport. C'est là que j'ai mis tous mes espoirs. Je veux qu'ils mentionnent ou non quand ils raconteront son histoire. C'est trois places sur le podium, c'est qu'un trône, une seule couronne. Et autant de frères dans l'ombre qui veulent y poser leur couronne. C'est des vrais, c'est des traîtres. C'est des MC qui devraient prendre leur retraite. Mais aucun d'eux ne me fera battre en retraite. C'est tout un art après la famille, c'est tout ce qu'on a. C'est des jours, des nuits à écrire, mais quand on aime, on compte pas. C'est un moyen de remplir les caisses, c'est la voix du peuple. Je fais savoir tout ce qu'il rate aux aveugles. Personne ne représente, alors on le fait nous-mêmes pour ce qu'on entend jamais.
Entre la marginale musique.
Par amour du game, par appât du gain, pour l'honneur des tiens.
Entre la marginale musique.
Personne ne représente, alors on le fait nous-mêmes pour ce qu'on entend jamais.
Entre la marginale musique.
Si tu veux qu'on se lève, qu'on aille sur la piste, tu sais ce qu'il faut pas.
Entre la marginale musique.
Des guerres et des combats, c'est des chèques et des contrats. Plein veulent y être mais n'y sont pas, ça elle reste on le racontera. C'est des textes et des constats, la parole ceux qui l'ont pas. Si tu pèses pas tu comptes pas, tu te relèves ou tu tombes bas. On persiste et qu'on aime ça, et le mic aime sentir nos mains sales. Tout s'agite sur un son infâme, c'est la course sur un sol instable. Sous les dettes toujours au même stade, tous veulent du cash et des belles femmes. Rouler en Benz et BMK, mais on va finir dans les mêmes flammes. Toujours pas des CD, j'ai toujours qu'un CDD. Tu veux peser, fais PDG ou des millions de CD. Je m'en tape ton opinion, tes critiques, mais reste mignon PD. Juste un souvenir du bon vieux temps et de tout ce qu'on serrait. Ils se battent pour être à la page, fais pas comme Zizou, t'en vas pas. Tout à la rage, t'as pas la rage, tout s'écroule et tu tombes à plat. Écoute, on raconte pas de blabla, on résiste, on reste, on squatte là. Joue-nous du vrai son, envoie de là.
Marginal musique.
Personne nous représente, alors on fait nous-mêmes pour ce qu'on entend jamais.
Marginal musique.
Par amour du game, par appât du gain, pour l'honneur des tiens.
Entre la marginale musique.
Personne nous représente, alors on le fait nous-mêmes pour ce qu'on entend jamais.
Entre la marginale musique.
Si tu veux qu'on se lève, qu'on aille sur la piste, tu sais c'est une faux pas.
Entre la marginale.
Envoie le son qui nous ressemble, le son qui nous rassemble. Envoie le son avant qu'on mette tout à feu à sang. Envoie le son qui frappe, Le son qui fait trembler les bas. Parle sur mon rap, mais rappelle-toi, tu pourrais prendre des bas. Le son t'assomme, c'est pas une musique comme les autres. C'est le son de la zone, c'est contre ceux qui donnent les ordres. Le son qui tue, le son des bandits, le son qui met fire. C'est le son qui dit ce que t'entendras pas ailleurs. C'est plus vrai que les infos, c'est le son qu'ils méprisent. Le son qui attise les flammes, le son de la crise, les drames. La bande son d'histoire triste, mais aussi le son qui plaît aux femmes, le son qui t'envoie sur la piste. Trop d'aimes s'ils veulent me clash, mais ce sont des lâches. J'parle le cas, j'ai attendu après personne pour que ça marche. Personne me représente, alors je le fais moi-même. Parce qu'on n'est jamais me servi par soi-même.
Personne nous représente, alors on le fait nous-mêmes pour ce qu'on entend jamais. Par amour du game, par rapport du gain, pour l'honneur des tiens.
Personne nous représente, alors on le fait nous-mêmes pour ce qu'on entend jamais.
Si tu veux qu'on se lève, qu'on aille sur la piste, tu sais qu'il ne faut pas
rire.
Donc voilà, le petit Valès, aka 20 traces, il est là, il a 12 ans, il trouve déjà que son prof de philo c'est un grand bouffon avec sa preuve de l'existence de Dieu, etc. etc. Très bien. Après le petit Valès, le petit 20 traces, pardon, il va grandir, il va devenir bachelier, et c'est là qu'on passe au tome 2. Le tome 2, le petit Vintras, il a quitté sa province, il est arrivé à Panama City. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il veut, en fait, il a un peu de sous, parce que ses parents lui filent un peu de thunes. Son père, il est instituteur, qui va finir agrégé. Ils ont un peu de sous. Sa mère, bon, mais après, c'est quand même une famille de paysans. Mais bon, ils ont un peu de sous, donc il lui file 20 balles par jour. À l'époque, ça suffit pour vivre à Paris. Je sais pas comment il se démerdait. Et il est là, il habite à Paris, il fait un peu ses études. Mais lui, ce qu'il veut, c'est goûter the real life. Et avoir un peu plus de thunes. Et donc, pour ça, en fait, il veut travailler. Il veut devenir ouvrier. Et alors là, c'est assez bizarre, la démarche de Vintras, parce que Vintras, lui... depuis qu'il est petit, il voit son oncle, dont on a parlé avant, qui est menuisier, qui travaille de ses mains. Il adore ça, il trouve ça magnifique, il trouve que ça a beaucoup plus de sens que de prouver l'existence de Dieu avec des haricots, ou comme son père, d'être instituteur. Lui, il serait plutôt du côté du travail manuel, mais il est quand même très doué à l'école, et son père le pousse, donc il continue. Mais là, il veut devenir ouvrier, en fait, on le comprend un peu par coquetterie. Alors ça, c'est très bizarre. Qui aujourd'hui voudrait devenir ouvrier par coquetterie ? Personne, je pense, enfin très peu de gens. Mais lui, voilà, c'est ça qu'il veut, parce qu'il veut toucher du doigt le monde du travail et parce qu'il veut un peu plus d'argent que ce qu'il a, même s'il n'en a pas nécessairement besoin. Enfin bon, il faut dire qu'il vit avec peu de trucs, mais avec peu de moyens, mais il n'a pas besoin de cet argent. Et donc, il veut devenir ouvrier. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va voir d'autres ouvriers pour dire voilà, moi je veux aller à l'usine. Et tout le monde s'en fout, en fait, sauf un vieux qui l'écoute. Alors là, je vais vous lire le passage de la discussion avec le vieux. Et ça, c'est un passage de fou, c'est un passage fondateur, ça explique tout ce que va devenir le petit Vintras. Et on est parti. L'un d'eux, un vieux à figure honnête, les joues pâles, les cheveux gris, m'a écouté jusqu'au bout. Et puis, avec un sourire douloureux, m'a dit « Regardez-moi, je suis vieux avant l'âge. Pourtant, je n'ai jamais été un ivrogne, ni un fainéant. J'ai toujours travaillé et j'en suis arrivé à 52 ans à gagner à peine de quoi vivre. C'est mon fils qui m'aide, c'est lui qui m'a acheté ces souliers-là. Il est marié et je vole ses petits-enfants. » Il parlait si tristement qu'il m'en est venu des larmes. « Essuyez ses yeux, mon garçon. Il ne s'agit pas de me plaindre, mais de réfléchir. Ne vous acharnez pas à vouloir devenir ouvrier. Commençant si tard, vous ne serez jamais qu'une mazette. » Et à cause même de votre éducation, vous seriez malheureux. Si révolté que vous croyez, vous sentez encore trop le collège pour vous plaire avec les ignorants de l'atelier. Vous ne leur plairiez pas non plus. Vous n'avez pas été gamin de Paris, et vous auriez des airs de monsieur. En tout cas, je vous le dis, au bout de la vie en blouse, c'est la vie en guenille. Tous les ouvriers finissent à la charité, celle du gouvernement ou celle de leur fils. À moins qu'il ne meure à la Croix-Rousse. Avez-vous donc besoin d'être ouvrier pour courir, vous faire tuer à une barricade, si la vie vous pèse ? Allons, prenez votre partie de la redingote pauvre, et faites ce que l'on fait, quand on a eu les bras passés, par force, dans les manches de cet habit-là. Vous pourrez tomber de fatigue et de misère comme les pions ou les professeurs dont vous parlez. Si vous tombez, bonsoir. Si vous résistez, vous resterez debout au milieu des redingotes comme un défenseur de la blouse. Jeune homme, il y a là une place à prendre. Ne soyez pas trop sage pour votre âge. Ne pensez pas seulement à vous, à vos 100 sous par jour, à votre pain cuit qui roulerait tous les samedis dans votre poche d'ouvrier. C'est un peu d'égoïsme cela, camarade. On ne doit pas songer tant à son estomac quand on a ce que vous semblez avoir dans le cœur. Il s'arrêta, m'étreignit la main et partit. Il doit être depuis longtemps dans la tombe. Peut-être mourut-il le lendemain, je ne l'ai pas revu. C'est lui qui a décidé de ma vie. C'est ce vieillard, me montrant d'abord le pain de l'ouvrier sûr au début, mais ramassé dans la charité au bout du chemin, puis acquisant ma jeunesse d'être égoïste et lâche vis-à-vis de la faim. C'est lui qui me fit jeter au vent mon rêve d'un métier. Je rentrais parmi les bacheliers pauvres. Énormément de choses dans ce texte, énormément. À commencer par le sourire douloureux. Alors ça c'est tout début du texte, hein. Je vous le relis. L'un d'eux, un vieux à figure honnête, les joues pâles, les cheveux gris, m'a écouté jusqu'au bout et puis avec un sourire douloureux m'a dit. Alors, ça c'est un peu l'introduction du passage. Mais ça contient déjà tout, ça contient en fait ce sourire douloureux. Alors ce sourire douloureux en fait, moi je l'analyse un peu comme le sourire de la condescendance. Et ce qui est totalement paradoxal. En fait, ça devrait être... Vintras, qui devrait condescendre au sort de l'ouvrier. Mais en fait, c'est l'ouvrier qui va se mettre au niveau de Vintras, parce que condescendre, ça veut dire ça en fait, étymologiquement, descendre avec. Donc, c'est paradoxalement l'ouvrier qui va descendre au niveau de Vintras pour se mettre en fait à lui expliquer la vie, alors qu'on aurait pu s'attendre à l'inverse. Et ça c'est extrêmement intéressant parce que Vallès veut nous dire par là que l'ouvrier a infiniment de choses à dire. Il a l'expérience de la vie, l'expérience du travail, il a ce sourire douloureux, il sait à quoi s'attendre, il comprend les ambitions modestes, devenir ouvrier, de Vallès, mais il va le mettre en garde contre ça. Et qu'est-ce qu'il va lui dire ? Il va lui dire que tout d'abord, être ouvrier, c'est être condamné à la misère. Au bout de, alors là, il y a une très belle expression. Au bout de la vie en blues, c'est la vie en guenille, il va nous dire. Donc, en fait, ce passage fonctionne beaucoup avec des métonymies de vestimentaires. La blues, la guenille et la redingote. C'est bon, la métonymie, là, je fais un peu le kéké avec des mots stylés. Mais c'est tout simplement, on parle du contenant pour exprimer le contenu. Comme quand je dis, je vais boire un verre, tu vas pas boire un verre, tu vas boire ce qu'il y a dans le verre. Donc tu vas boire le contenu et pas le contenant, et là c'est pareil. En fait, Vintras il va jouer un peu avec ses trois habits, la guenille, et surtout la redingote et la blouse qui l'oppose. Et donc ça, c'est là, il y a tout là-dedans, c'est... je fais que dire ça là. Ouais, il y a tout dans l'opposition entre la blouse et la redingote. Et alors pourquoi ? Parce que... tout d'abord, l'ouvrier nous dit quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement beau, je trouve. C'est que notre appartenance sociale, qui est déterminée par notre famille, en fait, par des choses qui sont indépendantes de nous, par là où on est, ne va pas déterminer notre champ de lutte, tout simplement. Ça veut dire que c'est pas parce que je n'ai bourgeois que je suis obligé de lutter du côté des bourgeois. Je peux lutter pour le prolétariat. Et c'est ce que l'ouvrier va conseiller à Vallès. Il lui dit, bon il n'est pas né bourgeois, Vallès, attention. Mais il n'est pas né ouvrier. Et ça fait toute la différence. Et il lui dit, voilà, vous n'êtes pas né comme ça. Vous n'êtes pas né ouvrier. Mais ce n'est pas pour ça que vous ne pouvez pas nous défendre. Et ça, c'est extrêmement important, parce que ça enlève tout déterminisme dans la lutte de classe. Engels, lui, par exemple, il était fils d'industriel, c'était un bourgeois, un grand bourgeois même. Et il s'est battu aux côtés de Marx, il s'est battu. Il a écrit, est-ce que écrire c'est se battre ? C'est la question qu'on se pose depuis le début. Et bon, mais en tout cas, il a pris le parti, ça, on peut pas le nier, hein. Il a pris le parti du prolétariat. Donc, il n'y a pas de déterminisme social du champ de lutte. Donc ça, c'est extrêmement important et rassurant, en fait. Hein. C'est une vision, moi, je trouve assez optimiste de la vie. Et, par contre, ce que l'ouvrier ne nie pas, c'est qu'il y a deux sphères. Voilà, il y a deux sphères. Il y a la redingote, il y a la blouse. Et on ne peut pas vraiment se comprendre entre les deux. Ça, par contre, c'est triste. Et c'est un certain fatalisme aussi. Hein. Moi, je ne sais pas si je suis forcément d'accord. Je ne sais pas, peut-être qu'on peut se comprendre, mais peut-être pas. Hein. Une part de vrai. Il lui dit, voilà, à l'usine, vous auriez des airs de monsieur, vous êtes beaucoup trop... Et ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que l'ouvrier ne va pas reconnaître en Ventras son pareil. Il va même le voir, a priori, comme un ennemi. Il aura des airs de monsieur, il n'est pas un gamin de Paris. Donc il n'est pas des nôtres. Vous ne pouvez pas vous comprendre. Mais de l'autre côté, il dit aussi à Ventras, tu vas t'ennuyer. Au milieu des ignorants. Et donc, il y a deux sphères. Et ça, donc voilà, les deux sphères, c'est super important parce que, à partir du moment où il y a deux sphères, se pose, je pense, le problème de la hiérarchie. Hein. Et les deux sphères, elles peuvent être soit hiérarchisées, soit sur le même niveau. S'il y a une hiérarchie, on se demande. Laquelle est au-dessus de laquelle, hein ? Est-ce que la redingote domine la blouse ? Est-ce que la blouse domine la redingote ? Et ça a posé un problème à la gauche communiste, hein, des Marx, de savoir comment le prolétariat devait agir pour s'émanciper et en interaction avec la sphère bourgeoise. Hein, comment tout devait interagir pour aller vers l'émancipation ? Et alors là, Marx il dit quelque chose de très clair. Il dit que le prolétariat doit s'auto-émanciper. Hein. Donc voilà. Donc auto-émancipation. Mais le problème, en contrepartie, cette auto-émancipation se fait tout d'abord par une prise de conscience de soi, c'est-à-dire constitution en classe sociale. À partir du moment où les prolétaires vont reconnaître en leurs camarades d'usine un mec qui a la même condition qu'eux, ils vont se constituer en classe sociale et pouvoir commencer la lutte des classes. Mais c'est pas en regardant leurs camarades d'usine, en fait, qui vont prendre conscience de leur appartenance au prolétariat, c'est dans leur rapport conflictuel, en fait, avec la bourgeoisie. Donc, c'est pour ça qu'il faut, pour qu'un État devienne communiste, il faut qu'il passe d'abord par la société capitaliste, la société gérée par les bourgeois. Donc, ça, c'est extrêmement important. Parce qu'à partir du moment où il y a prise de conscience de soi, il y a mise en place du parti. Constitution en classe sociale suivie de mise en place du parti chez Marx. Donc, on a nos deux sphères, en fait. Mais la bourgeoisie et le prolétariat, mais elles agissent en contradiction l'une par rapport à l'autre. Donc ça, c'est important. Surtout que, en fait, la définition marxiste, c'est pas celle qui va être appliquée, c'est pas celle qui va être retenue par l'histoire, hein, tout simplement par l'Union soviétique. Parce que Lénine, lors de la Troisième Internationale, c'est-à-dire en 1919, il va changer en fait ce que dit Marx. Et il va dire quelque chose d'extrêmement important, enfin de déterminant en fait pour toute la politique soviétique les 80 années qui vont suivre, 70 allez, c'est que la constitution en classe sociale n'est pas l'effet d'interaction entre deux sphères, mais c'est un effet du parti. Et donc là, on revient à notre question de la hiérarchie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est le parti qui va constituer le prolétariat en classe sociale, qui va faire du prolétariat une classe sociale, le parti agit du dessus, il est au-dessus du prolétariat. Et c'est lui, en fait, qui tire les ficelles. Bon, c'est un peu, j'aime pas trop cette expression, ça fait un peu un complot, etc. Mais c'est un peu ça qui donne les mots d'ordre, qui constitue le parti. Qui constitue, la classe sociale prolétarienne. Et, en fait, le gros problème de cette définition, enfin, de cet apport de Lénine à la théorie marxiste, c'est que l'organe qu'est le parti, à partir de ce moment-là, il devient un organe centralisé, qui finalement contient des germes d'autoritarisme. Et donc il est là, le gros problème qu'a soulevé Vallès, le problème des deux sphères, agir en tant que bourgeois ou en tant que non-prolétaire pour le prolétariat, ça pose d'énormes problèmes. Parce qu'à partir du moment où on arrive dans la hiérarchie, en fait, on peut tomber très vite dans un régime totalitaire. Et donc, la question qui reste, hein, et qu'on a envie de se poser, c'est mais alors comment on peut faire si on est bourgeois ou quoi que ce soit pour aider le prolétariat? Comment on peut faire pour qu'il n'y ait pas cette hiérarchisation entre les deux sphères? Et là, c'est un peu Rosa Luxembourg hein, qui va répondre, enfin, qui va apporter sa contribution, moi, je trouve. C'est qu'elle revient sur la définition léniniste du parti et du prolétariat, en disant qu'en fait, la définition de Lénine, ça apparente un peu le parti, ou enfin, le communisme, à un régime de caserne. Hein, c'est les mots qu'elle emploie. Et que pour elle, en fait, les révolutions ne s'apprennent pas à l'école. Il ne peut y avoir une sphère supérieure qui doit dicter les agissements du prolétariat. Et donc, qu'est-ce qu'il lui faut à Rosa Luxembourg? Quel doit être le rôle du parti pour elle? Eh bien, le rôle du parti doit être de donner des mots d'ordre dans les grèves générales. Doit être de centraliser... Mais d'avoir un apport stratégique pour avoir une action... une action unie, en fait, dans la grève générale. C'est-à-dire que le parti ne doit agir que dans la sphère de l'action. Et voilà, et là, on retombe un peu sur notre problème de la sphère de la parole et la sphère de l'action. Pour Rosa Luxembourg, la parole n'a d'effet que si elle prend place au cœur de l'action. La parole, en fait, ça doit être de l'action avant d'être de la parole. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir éviter le problème de la hiérarchisation. Donc voilà, les amis. Là, on va envoyer un petit son parce que s'il nous faut de l'action, s'il nous faut de la guérilla, moi j'ai ce qu'il faut au niveau du son.
Appelle groupe, épaulés de divisions de nanas montrant leur coupe. La nazification de la musique est en marche, les Ariens sont en mars et la Gestapo agace. Désormais classé, trop classique ou trop spé, trop honnête ou trop poète, il faut les parquer. Ils veulent agresser le divin, être icône, aller dans l'humain, détériorer le génome, créer la vache folle dance, la tremblante du mouton, la rentabilité non contrôlée fabrique des petits cons. Malheureusement, éthique rime avec fric, et le prochain holocauste sera-t-il scientifique? Je suis entré dans la musique avec comme volonté d'allumer plein de foyers comme a pu le faire le Tché. Faire circuler les idées, faire avancer l'utopie en alternant barricades, pensées fines et poésie. Si les billets sont si fins, c'est pour qu'on les amasse. Une femme tombe, on passe, de l'argent, on le ramasse. Le système est une connexion, le cerveau en réseau, et c'est extrêmement librement que les hommes cassent leurs idéaux. Je n'ai que des mots, mais n'ai plus la force de me battre contre moi-même. Lève les yeux au ciel, qu'aimant des cris amis nous amène. J'ai vu la lumière, je suis avec toi, mon Dieu, s'il te plaît, suis-moi dans la guérilla. J'aurais fait jurer de maintenir la barre, sinon c'est le jury et les jurés. Si pas de code de déontologie, de serment d'Hippocrate, alors on fait des mélodies avec une simple grâce. La marchandisation dans les populations d'Occident pousse à la consommation stérile et arrive l'accident. J'agis pour la postérité, pour montrer la prospérité, valider la prosérité et jamais la cause irritée. Mets-moi la camisole, mais je garderai mon pistol. Plus un stylo shipper pour tout cracher comme les Sex Pistols. Je veux pas sauver le monde, c'est sauvé. Quand t'es désabusé, tu vois qu'il court derrière des lovés. Le fric devient Dieu et on prend la symbolique. L'unique, c'était Dieu, maintenant on ne parle monnaie une. Les gens attendent le Messie, d'autres le 13e imam. D'autres attendent le tram, mais je crois qu'ils se trompent de rame et ils rament. C'est un peu comme de vendre des produits à mouet, en faisant du porte-à-porte, de porte-à-porte, fuck anyway. Poursuis-moi avec les lois ou les drones si je t'agace. Ou envoie-moi la crème des commandos issus du Hamas. Envoie-moi les spetsnaz des forces alpha russes. Envoie-moi le Mossad et des partisans biélorusses. Envoie-moi CIA, Brigade 15, FBI, les commandos Rasta de Jarastafari.
J'unifierai ces forces hétéroclites autour d'un feu le soir pour unifier la guérilla.
Ciao.
MC Solar.
Donc la guérilla, ça vaut mieux que toutes les paroles du monde, voilà où on en est. Donc un gros raisonnement de facho. En gros, il faut se taper sur la gueule, aller tous mourir à la baston, et voilà. Non. On va se calmer tout de suite, là, même si j'ai grave chargé la parole, j'ai dit ouais, la parole ça peut devenir spectacle, la parole ça peut créer deux sphères avec une qui va finir par dominer l'autre. Pourquoi ? Parce qu'elle a la parole, parce qu'elle a le mot d'ordre. Et ça, ça s'appelle quoi ? Le parti centralisé et son action vis-à-vis du prolétariat. Donc la parole, j'ai beaucoup chargé. Et c'est assez paradoxal parce que Vallès, lui, il s'en bat les couilles de la parole. Complètement. Lui, Vallès, ce qu'il veut, c'est... C'est se battre. Hein. Voilà. Lui, il veut se taper. Et ça tombe bien parce que lui, il est né dans une époque où il y a eu 10 milliards de révolutions. Hein. Il est né en 32, donc en 39, il y avait une espèce de grosse révolte. Bon, il avait 7 ans. Il s'est quand même pas... Ouais, voilà, hein, il s'est pas allé se battre. Mais déjà, en 48, il a 16 ans, il fait de la manif, il va se taper. Et surtout, en 51, lors du coup d'état de Napoléon, là, il se rebelle. Parce que Vallès, je l'ai pas dit, mais c'est super important, c'est primordial, mais on l'a un peu imaginé, c'est un penseur, bon, de gauche, d'un socialisme pré-marxiste, on pourrait dire, même si sa théorie, sa politique, il n'y en a pas. C'est juste un écrivain et un bastonneur, et c'est pour ça que c'est rigolo, et que ça nous intéresse. Et voilà, et donc en 50, mais il est extrêmement républicain, hein, mais républicain au sens fort, pas républicain comme les mecs de l'UMP ou même comme les mecs du Front National qui se disent républicains. Non, républicain à l'époque où ça a un sens, à l'époque où la République elle est pas encore installée, à l'époque où républicain ça veut dire rouge quoi. Hein. Le républicain saigne du sang à l'époque. Et donc, qu'est-ce qui va se passer le 2 décembre, hein, lorsque Napoléon, rappelons-le, Napoléon III, va faire son coup d'État ? Eh bien, Vallès va descendre dans la rue avec les trois autres pelés, les pauvres, qui sont descendus avec lui. Parce que, bon, le coup d'État, il a été assez facile, il n'y a pas eu d'énormes manifs. Enfin, si, mais elles n'ont servi à rien. Et c'est dommage, peut-être. Mais Vallès, voilà, descend dans la rue et il veut se taper. Donc je vais vous lire le passage où Vallès descend dans la rue. Ça va nous faire un peu relativiser le sens de la parole. Hein. On va se calmer sur ça. Voilà qu'il vient d'arriver un grand garçon brun, long et gras, frère d'un célèbre de 1848. Plus vieux que nous, couvert de son nom, il a la parole. On l'écoute. Que dit-il ? Citoyens, je vous apporte le mot d'ordre de la résistance. Ne pas se lever, attendre. Laissez se fatiguer la troupe. Et on l'écoute. Et on ne le prend pas par les épaules, et on ne le jette pas dans la rue pour faire le premier morceau de barricade. Je m'indigne. Proclamons plutôt que c'est fini, perdu. Rentrez chez vous. Faisons-en notre deuil. Est-ce cela que vous voulez ? On se récrie. Non ? Eh bien faites voir comme un éclair que tous les bras, toutes les âmes protestent et se révoltent. À l'œuvre tout de suite. Je vous le demande au nom de la Révolution. Que veux-tu donc faire ? Faire ce que nous pourrons. Descendre l'escalier, entamer le pavé, crier aux armes. Aux armes ! Camarades, croyez-moi, on m'arrête. L'homme brun, long et gras, se tourne vers les amis et demande si l'on veut suivre le mot d'ordre qu'ont donné les députés. Ou bien si l'on veut m'écouter, moi. Moi.
descendre l'escalier, entamer le pavé et crier aux armes. Il faut obéir au comité, dit la bande. Voilà. Donc là, il y a un peu tous les problèmes qu'on a posés depuis le début. Hein. C'est magique, absolument magistral. Hein. Tout est là, tout s'enchaîne bien. Allez, tais-toi un peu. Bon, donc Vallès, il s'est réveillé à 10h du mat, on lui a gueulé. « Ouais, il y a la révolution !» Vintras, pardon, excusez-moi. Et Vintras est descendu dans la rue, sauf que peut-être que Vallès, il a fait la même chose, hein, mais on ne sait pas. Et il est descendu à 10h du mat, dans la rue. Et là, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu ses poteaux révolutionnaires menés par le grand garçon brun, long et gras. Alors déjà, on voit que le mec, quand il est défini comme ça, on l'aime pas. Long et gras, pff, c'est déjà gras, tu vois, ça veut dire un peu bourgeois. Donc déjà, le mec, on le sent mal. Et en plus, frère d'un célèbre de 48. Donc sous-entendu, ce mec-là va nous donner des mots d'ordre juste parce que son frère a fait des trucs stylés. Donc c'est même pas lui, c'est son frère. En gros, Vallès, il aime pas ça. Hein. Il aime pas qu'on lui donne des ordres, et encore moins parce que, soi-disant, son frère a fait des trucs. Hein. Ça lui rappelle un peu le collège, ça lui rappelle un peu l'école, et ça lui rappelle un peu tout ce qu'il aime pas. Et ce mec, dont Vallès dit qu'on aurait pu le jeter déjà dans la rue pour faire un bout de barricade, vu qu'il est gras et long, donc on voit doublement qu'il l'aime pas. Hein. Donc, et ce mec, qu'est-ce qu'il arrive? Il dit « on ne se bat pas ». On va fatiguer la troupe. Alors déjà, il faut savoir que dans le texte, le fatiguer la troupe, c'est en italique. Ça veut dire que Vallès regarde avec un œil extrêmement inironique cette expression de laisser fatiguer la troupe, parce qu'en gros, pour lui, ça veut dire ne rien faire. Et le mec est là, il dit « on ne fait rien, on attend. Pourquoi ? Parce que c'est le mot d'ordre des députés. » Voilà, des députés républicains. Et là... on retombe dans le problème de la hiérarchisation, hein, de ceux qui ont la parole, qui vont dicter l'ordre à ceux qui font les actions. Et ça, Vallès, ça lui plaît pas du tout. Hein. On a compris, Vallès, il veut se taper. Sauf que, en fait, s'il était allé se battre comme un fou furieux contre Napoléon et son armée, quoi, enfin, et les militaires, il se serait fait tuer. Voilà. Hein. Et là qu'en fait, on peut retrouver une certaine efficacité en fait, de la parole hein, et de la centralisation stratégique. Parce que si on n'avait pas eu les députés qui avaient donné un certain mot d'ordre et ce mec long et gras qui l'avait relayé, bah, ils seraient tous allés se faire crever. Ils n'auraient pas pu faire la commune. Hein, ils n'auraient pas pu mourir pendant la commune. C'est dommage pour eux, les pauvres miskins. Et donc, voilà, hein, il gagne quand même 20 ans de vie, hein, grâce à la parole. Donc, là, je fais un peu le con, mais c'est pour dire que, quand même, la parole a une certaine fonction. Et, bon, je vous expliquerai à la fin ce que j'en pense, mais ça, on peut pas le nier. Donc, voilà. Et alors, il n'y a pas un petit problème. Ce mec qui fait que dire que la parole, ça le saoule, que lui, il veut se battre, il écrit des bouquins. Et en plus, il est journaliste. Hein, ça. Ce que je vais vous dire un peu qui c'était, le Vallès. Donc, il est né en 32. Il a été journaliste et il a été essentiellement... il a été élu dans un arrondissement de Paris pendant la Commune. Et il a passé toute sa vie à fomenter la Révolution. Après la Commune, il a été exilé. Et ça, il l'a très mal vécu. Il était tout triste. Et ça, on le comprend. Donc, ce Vallès... qui critique la parole, qui veut être dans l'action, il écrit des livres. Alors ça, là, il y a un problème quand même, mon pote. Il faut que tu sois un peu cohérent. Et sur ça, on va lire ce que nous dit Michel Tournier. Alors Michel Tournier, je ne sais pas si vous savez qui c'est. C'est un espèce de beau gosse de la littérature hein, qui a écrit des trucs un peu stylés, un peu poétiques, un peu bien, hein, non, c'est un bon gars. Et alors là, j'ai un scoop total à vous apprendre. Michel Tournier était pédophile. Non, je rigole. Michel Tournier n'est pas mort. Alors là, ça c'est un truc de fou parce que moi je pensais qu'il était mort. Hein. Il est né en 1924, il a 89 ans le garçon. Et il n'était pas pédophile, mais il n'est pas mort non plus. Et il n'écrit plus, hein, parce que moi je crois qu'il est mort parce que ça fait longtemps qu'il n'écrit plus et qu'on n'en parle plus. Mais il est encore là. Et le Michel Tournier, il écrit la préface hein, de L'Insurgé, le troisième tome dont on ne parlera pas aujourd'hui et que je vais vous sortir. Parce que je... Il écrit la préface de cet insurgé et il nous parle de Vallès. son rapport avec la littérature, hein, comme quoi c'est bizarre de dire que la parole c'est de la merde et d'écrire, de faire de la littérature. Donc je vous le lis. Pardon, c'est pas la préface de l'insurgé, c'est la préface du bachelier. Préface de l'insurgé, il y a un autre truc. Donc là, c'est Tournier qui parle. Car si Vallès est indiscutablement un grand écrivain, frère aîné de Zola, il est non moins discutable qu'il se souciait de la littérature comme d'une guigne. Ses écrits, même littéraires, même la trilogie, écrite en exil et avec le recul d'une vie, se confondent pour lui avec l'action sociale. Seulement l'action sociale ne découle pas sur lui. Non, pardon. Seulement l'action sociale ne découle pas pour lui d'une idéologie. Pas plus qu'elle ne débouche sur une prise de pouvoir politique. Elle part d'un fond personnel où se mêle un tempérament de feu et le souvenir d'une enfance malheureuse. Et elle se manifeste par un réflexe immédiat, irrépressible, qui en fait toute situation. Qui en toute situation jette Vallès du côté des faibles. Ne me parlez pas des conceptions nuageuses et humanitaires de Marx, pas de philosophie trouble. Je ne vais pas m'enfermer dans un bivouac quand j'ai devant moi tout le champ de bataille révolutionnaire. Je ne veux pas prendre un numéro dans la vie. C'est ce que dit Vallès. Cet homme est un bloc où tout part d'un cœur gros comme ça. Cœur au sens archaïque de courage, de thumos, fontaine d'indignation généreuse, une force de la nature qui étouffe dans les ruelles de la politique et y cherche désespérément les grandes plaines de l'histoire pour s'y déployer. Ah là là là. C'est un beau gosse quand même, Tournier, il écrit pas mal. Hein. Mais qu'est-ce qu'il nous dit sur Vallès? Il nous dit que c'est avant tout un homme d'action. Et d'ailleurs, il y a une autre phrase que j'ai retenue sur Vallès, dans la préface cette fois de l'insurgé. C'est un critique, c'est pas un mec connu, là. Enfin si, c'est un mec connu, mais beaucoup moins que Tournier, donc, ouais, il est pas connu, quoi. Qui écrit « Vallès n'a eu le droit d'écrire l'insurgé, donc le tome 3, que parce qu'il avait agi dangereusement. Mais ce livre est peut-être son plus bel acte. » Alors là, on va réfléchir un peu à cette phrase-là. Donc, écrire, c'est un acte. Ok. Est-ce que c'est un acte utile? Parce qu'il y a plein d'actes inutiles. Surtout utile dans le sens de la révolution. Si on écrit un livre révolutionnaire, est-ce que ça va être utile à la révolution? C'était un peu ça notre question. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit, le critique? Je vais ressortir son nom quand même, parce que ça se fait pas. Qu'est-ce qu'il nous dit, Mister, c'est bon, ça arrive. Mister Emilien Carassus, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que écrire l'insurgé, c'est un bel acte. Et alors là, je pense que là, il y a matière à réfléchir, hein, parce qu'un bel acte, c'est pas forcément un acte utile. Hein. Et voilà. Et alors là, c'est là que je vais me la jouer un peu dépressif. C'est, on dirait que chaque acte, puisque c'est un acte d'écrire, hein, pas un acte utile, mais c'est un acte. Peut-être un acte poétique, ouais. Et c'est là que ça fait bader. C'est que si c'est un acte d'écrire, si Vallès écrit, il fait une action, il fait pas une action peut-être révolutionnaire, hein. Il fait juste un bel acte. Juste, c'est peut-être beaucoup mieux, hein, finalement. Pourquoi on voudrait tout le temps faire la révolution, hein ? Faut peut-être se calmer au bout d'un moment. Et c'est là le problème de l'écriture. Hein. Et finalement, on va peut-être faire le dépressif en disant que si les mecs aujourd'hui font plus que des émissions de philo où ils glosent, ils font les beaux gosses, c'est peut-être parce que l'écriture, c'est qu'un bel acte, le langage, c'est pas un acte de combat. Hein. Peut-être. Et ça fait peut-être bader. Hein. On va rester là, mais sauf que vous inquiétez pas, la semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? L'insurgé tome 3, la révolution, la commune, et là on va voir si on peut pas revenir sur cette définition un peu triste de l'acte d'écrire. Hein. Est-ce que écrire finalement ça peut pas faire des trucs? Est-ce que parler ça sert pas à quelque chose? Hein, est-ce qu'on n'est pas là à faire de la merde tout le temps? Peut-être, c'est ce que nous dira la semaine prochaine le tome 3. En attendant, on regarde Vallès s'enivrer dans les manifestations, se faire emporter un peu par la foule, comme vous savez qui. Ou peut-être que vous savez pas, mais vous allez voir.
Et puis la lecture.
sample est dingue, Kinec.
Pendant la musique, les périls, les rires.
Droom Dreamers, ça fait la foule, part 2.
Emporté par la foule.
Yeah, yeah, ok, ok. Chante dit, chante dit. Sam, c'est le 33. Et moi-même, Youssoupha, prime, parolier, le lyriste de Bantou. Yeah, yeah, la foule. Ok, ok. Les mauvaises langues viennent pour mailler is in the house. Hardcore Edith Piaf devient Amy Winehouse. Place une dédicace et puis c'est le blackout. Le rap fait du surplace, les MC font de la house. La foule fait du bounce. Quand le hip-hop frappe, j'aimerais donner à DC l'envie de continuer le rap. Arrêtez de roucouler, déballez vos crasses. Moi je repars en tournée, emballez vos clashs. C'est la grande classe, y'a des concerts cool, y'a des concerts à l'arrache. Old school ou new school, mais quand j'entends la foule, j'ai le cœur qui s'arrête ensuite. Je vis des moments rares, trop rares, comme les minarets en Suisse. Si tu me suis, écrit sur les forums, portefeuille cherche des boucs émissaires et tous les chemins mènent au Rhum. Jusqu'à Laurent, on se défoule, en perdre la boule. Je coule, emporté par la foule. Yeah. On vous l'avait dit, vous n'avez jamais entendu de rap français. Chantez, dites, chantez. Willy G au Black Sound Studio. Oliver Tweed fait les Droom Dreamers. Ça dit quoi?
Sam, Mister Sam, je suis emporté par la foule. Concert à atmosphère sage, je me sens frappé par la foudre. Public chauffé comme un four, saucé par la foudre. Guichet fermé ou pas, ma gueule, j'en ai rien à foutre. Moi, qu'à toi des baffes ou le beat de foudre. J'ai la reine qui te roule le cul, et en plus, on y fout le doigt. Tes têtes d'affiche deviennent nos groupies. Plus rien ne m'étonne, j'y sois qu'un droupie. Sur les routes, on roupie, on tourne plus qu'une toupie. Des barres sur scène en troupe, vous le sbeul finir accroupi. Cumule la pression, la change en transe. Énergie qui émane de nos micros et fait jumper public de France. Dès que j'entends crier la foule, j'ai le sang qui bougrave. Toujours chaud pour balancer, non, je te parle pas de poucave. Préviens ta zone, qu'on est halle, viens apprécier mon show. Tellement chaud qu'on fait même applaudir les manchots.
Applaudissements pour Mr. Sam, tiens. Yeah. Hey, frère, arrête de foutre le bordel sur la tournée. FBI, criminel. DJ Fresh, la Sana, Pierre Mafoy, Bombay et Musique, encore une fois, emporté par la foule. Boom Dreamer, Oliver Twist, Dinec, SKM, Gore Warrior, Ayo Squad, Dixon, Mookly MC. Une spéciale dédicace pour tous les mecs du Montmeli. 9, 4, 9, 5, 9, 9. Hey Julien, je crois que c'est bon là, je peux couper la musique.
Voilà, voilà, l'émission Mountain Was a Thug. L'émission Mountain Was a Thug touche à sa fin. À la semaine prochaine pour donc le tome 3 de la trilogie L'Insurgé, où on va voir si la parole peut faire quelque chose ou s'il reste plus qu'à nous taire, aller nous enterrer ou alors se faire tuer dans les manifs. Voilà, c'est quoi l'enjeu la semaine prochaine, c'est ça. Ciao, bonne journée sur Radio Canu 102.2 Lyon, la plus rebelle des radios. Popop.